C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Pensez à ce que vous dites. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir une semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, Dieu est bon. Tout le temps et à 100%, n'est-ce pas? 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Je crois que ça tombe bien ce matin qu'on parle un petit peu de la nouvelle naissance et la nouvelle création. Parce qu'on vient de voir 7 personnes se faire baptiser, 7 personnes qui ont pris une décision de suivre le Seigneur Jésus et de marcher en nouveauté de vie. Et des fois, souvent même, je crois, qu'il y a des personnes dans le corps de Christ qui n'ont pas saisi la réalité de qu'est-ce qui s'est passé dans leur cœur quand ils ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il y a trop de personnes qui ont quand même l'idée que c'est juste une chose religieuse qu'ils ont fait. Il y a trop de personnes qui ne comprennent pas que quand ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus et ils ont vraiment cru dans leur cœur, je ne parle pas de quelqu'un qui a un assentiment intellectuel, parce qu'il y a des personnes, il y a beaucoup de gens dans notre province ici au Québec qui croient en Dieu et qui croient en Jésus. N'est-ce pas vrai? Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont forcément passés de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Parce que même la Bible dit, vous croyez en Dieu, vous faites bien, mais le diable lui-même, il croit. Mais le diable n'est pas sauvé, laisse-moi vous dire. C'est pas assez de croire. Tu peux être au milieu de la rue Mélenchon ce matin et je peux dire, « Hey, attention! Bruno, il y a un camion qui arrive! » Et tu peux dire, « Oui, je crois que tu as raison. » Je vois le camion, tu as bien raison. Ça arrive à toute vitesse, Bruno! Oui, je vois ça, j'y crois. Bruno, tu vas te faire écraser! Je pense que tu as bien raison. Laisse-moi te dire, est-ce qu'il est sauvé? Non, il faut être sauvé, il faut bouger. Mais dans le sens que notre salut, c'est un don gratuit. Mais il faut croire, mais croire, c'est un verbe. Un verbe dans le sens que ce n'est pas juste un assentiment intellectuel. Quand je crois en Jésus, je crois dans mon cœur. J'accepte Jésus dans mon cœur. J'accepte pas juste dans ma tête que oui, je crois que Dieu existe. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. C'est pas ça. Mais je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il est ressuscité pour moi. Et je crois que j'ai besoin d'inviter Jésus dans mon cœur. J'ai besoin de vivre pour Jésus. Et quand j'ai cette foi vivante, une foi qui est accompagnée par une action, un verbe, là, quelque chose arrive. Quelque chose qui arrive, c'est que je suis passé de la mort spirituelle à la vie, je suis sauvé parce que le Saint-Esprit entre dans mon cœur et il fait de moi une nouvelle création. Et en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, regardez bien, c'est conditionnel, c'est pas tout le monde, c'est si quelqu'un est en Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être en Christ? Suivre une liste de règlements ou est-ce qu'il faut juste aller à l'église 7 fois par jour, faire tant de prières par jour? Non. La seule chose qu'il faut faire pour être en Jésus-Christ, c'est d'accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur, votre Seigneur, de confesser avec ta bouche le Seigneur Jésus. Un Seigneur, c'est un maître, n'est-ce pas? Et de croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et là, si tu fais cela, tu es passé de la mort à la vie spirituelle. Dieu entre dans ton cœur par l'Esprit Saint et fait de toi une nouvelle création. En fait, dans le grec, il y a des érudites qui nous ont dit que cela signifie que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle espèce de créature qui n'a jamais existé auparavant. N'est-ce pas bon? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas le principe. Il pense que oui, je vais donner ma vie à Jésus et je vais essayer avec toute ma force d'être aussi bon pour me rendre au ciel. C'est pas ça. Parce qu'ils ont toujours cette image de eux-mêmes comme étant un pécheur qui est faible, qui peut pas faire grand chose et que je suis un pécheur, je suis toujours un pécheur, mais au moins je suis pardonné. Et qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? C'est que la nouvelle naissance est beaucoup plus que le pardon. Amen. Vous pouvez être pardonné, mais rester pareil. Mais quand Dieu entre dans votre vie, vous êtes pardonné. Votre passé est effacé. Vos péchés du passé n'existent plus. C'est tout mis dans un mer d'oubli. Ça n'existe plus. Même si le diable viendrait pour vous rappeler de vos anciens péchés, vous montrer les clips vidéo, les clips de DVD, de qu'est-ce que tu as fait il y a 10 ans, 20 ans, ou même l'année passée, ou le mois passé, la semaine passée. Toutes ces choses, si vous êtes en Jésus-Christ et vous avez confessé Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, ces choses n'existent plus. Et tu peux parler à Dieu à propos de ces péchés, il va dire, tu parles de quoi? Je m'en souviens plus parce que Dieu, dans sa puissance, a pris une décision d'oublier nos péchés. Il a mis ça dans un mer d'oubli. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Que je suis pardonné. Dieu ne se souvient plus de mes péchés. Vous êtes pardonné, il ne s'en souvient plus de vos péchés. Mais quelqu'un qui est juste pardonné, mais qui a la même nature, qui a le même tempérament, qui a les mêmes problèmes intérieurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste continuer à faire les mêmes choses qu'il a toujours fait. Tandis que la Bible dit que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle espèce de créature qui n'a jamais existé auparavant. Amen. Les choses vont changer. La vie va être transformée. Je n'avais plus à agir comme j'agissais avant. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui agissent comme ils agissaient avant. Pourquoi mon peuple périt faute de connaissance? Beaucoup des personnes ne comprennent pas la réalité de la nouvelle naissance. Combien de vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur personnel? Juste lever la main, vite dit. Donc, vous pouvez dire avec assurance, je suis une nouvelle création. On va le dire ensemble, je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle espèce de création qui n'a jamais existé auparavant. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. On sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Dans votre cœur, quand vous avez reçu Jésus. Mais aujourd'hui, on parle de la réalité de la nouvelle création. Dans vos notes, on va parler spécifiquement d'une nouvelle identité en Christ. Et qu'est-ce qu'on va voir premièrement? C'est que nous avons tous besoin d'un changement d'identité afin d'accomplir la destinée que Dieu nous a réservée. Nous avons besoin d'un changement d'identité. Et c'est souvent comme ça dans la Bible, même dans l'Ancien Testament. Même si Abraham n'était pas né de nouveau, Dieu a compris le principe qu'il avait besoin de changer le nom d'Abraham en Abraham. Il a changé le nom de Sarah. Il a changé le nom aussi de Jacob en Israël. Quand Saul de Tarse, qui persécutait l'Église, son nom a été référé plus tard comme Paul, pas juste Saul. On voit aussi Simon, qui est appelé Pierre. On voit que souvent, Dieu même, il change les noms des personnes. N'est-ce pas intéressant? Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on comprenne que quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création. Nous ne sommes plus la personne qu'on était auparavant. Nous sommes une nouvelle création créée à l'image de Dieu, créée en perfection. Et que nous sommes esprit, âme et corps, Dieu il vient dans notre cœur et fait de nous une nouvelle création dans notre esprit, mais nous avons quand même notre âme, notre intellect, notre volonté, nos émotions, et notre âme n'est pas régénérée instantanément. Notre âme a besoin d'être transformée au fur et en mesure par ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence. Mais ton cœur n'est pas renouvelé, ton cœur, ton esprit est régénéré. Amen. Régénérer une nouvelle espèce de création qui n'a jamais existé auparavant. Et on vit dans un corps. Et on sait que notre corps physique est toujours infecté par le péché. Un jour, notre corps même va être remplacé. Ce qui est mortel va être englouti par ce qui est immortel. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, malheureusement, j'aurais aimé ça, que quand j'accepte le Seigneur Jésus, que automatiquement, mes pensées changent aussi. Ça marche pas comme ça. C'est mon cœur qui change. J'aimerais ça aussi, j'aurais aimé que mon corps physique change. Et boum, tout d'un coup, je n'ai plus les impulses, je n'ai plus le désir de faire des choses qui ne sont pas correctes. J'ai aucune tentation au niveau physique parce que mon corps est transformé. Mais ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce qui arrive? Tu acceptes Jésus, ton cœur est régénéré. Au fur et à mesure, tu changes et tu transformes ta façon de penser, ta volonté, ton âme. Et ça devient conforme à la volonté de Dieu dans ton cœur. Et quand ton cœur et ton âme sont en accord, ton corps physique doit suivre. Et les désirs de la chair sont anéantis et contrôlés parce que notre esprit et notre âme sont en accord. Mais qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? On veut regarder la réalité de votre nouvelle identité en Jésus-Christ. Nous avons tous besoin d'un changement d'identité. Combien de fois je parle avec des chrétiens qui viennent de péter une coche, comme on dit, hein? Qui viennent de faire quelque chose qui n'est pas correct. Ils disent, mais tu sais quoi, je suis juste fait de même. Je suis fait de même. En disant je suis fait de même, nous sommes en train d'oublier quelque chose. Que nous étions faits de même. Mais que maintenant, nous avons été faits à l'image de Dieu et que nous sommes les nouvelles créations. Peut-être dans ton âme et dans ton corps, tu as encore les mêmes désirs, les mêmes impulses, mais si tu peux arriver à la connaissance de la réalité de ta nouvelle identité en Jésus-Christ, ça va t'aider à ne plus agir comme tu agissais autrefois. Amen. Tout le monde dit, je suis une nouvelle création. Il y a deux versets que je veux que vous compreniez aujourd'hui, parce qu'en réalité, il y a juste deux catégories de personnes sur la planète Terre. Beaucoup de sous-catégories, mais deux catégories majeures sur la planète Terre. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 dit ceci. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ici, on parle de deux hommes. Le premier Adam et le deuxième Adam. Le premier Adam, on sait c'est qui? C'est le premier homme qui a existé sur la planète. Dieu a créé Adam, et puis il a pris de lui une côte, et il a créé une femme. Il l'a placé dans le jardin. Cet homme était parfait. Cet homme avait tous ses besoins rencontrés. Il vivait dans l'abondance, dans un jardin magnifique, n'est-ce pas? Il avait une communion avec Dieu. Il avait une belle femme. Il avait toutes les choses qu'un homme pourrait désirer, n'est-ce pas? Le paradis. Il avait tout. Il avait même la domination et l'autorité sur la planète Terre d'assujettir toutes les autres créatures de la planète et de prendre soin de la planète et de cultiver le jardin. Adam avait une bonne affaire. Vous êtes d'accord? Même pas besoin de choisir qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui. Est-ce que je vais mettre mon pantalon bleu ou noir? Même pas besoin de choisir. Il est revêtu de gloire. Mais Adam, le premier Adam, a pris une mauvaise décision. Il a fait un choix pas drôle. Il a choisi de désobéir à Dieu, de révolter contre Dieu. Et quand il a révolté contre Dieu, il a donné son autorité à Satan, qui est devenu, comme la Bible dit, le Dieu de ce siècle. Adam est mort spirituellement. Il était séparé d'avec son Créateur. Il est mort spirituellement et 900 ans après, à peu près, il est mort physiquement. Parce que la mort physique est le résultat de la mort spirituelle. Vous comprenez? Donc, Adam, le premier Adam, est mort. Et la Bible dit que nous tous, moi, j'étais en Adam quand il a péché. J'étais en lui, dans son corps physique. Si je pourrais tracer mon arbre généalogique, je pourrais tracer ma vie. Et même qu'est-ce qui se trouve dans mon corps physique, ça se trouvait dans le corps d'Adam quand il a péché. Donc, moi, j'étais en Adam quand il a péché, et vous aussi, vous étiez en Adam quand il a péché. Et le problème avec ça, c'est que tout le monde, depuis, est devenu pécheur. Tout le monde qui entre et qui vient au monde, qui entre sur la planète Terre, tout le monde est venu au monde avec une nature pécheresse. On est tous en Adam, tous sont morts. Et à cause de mon arrière-grand-papa Adam, je suis venu au monde pécheur. Et vous êtes venu au monde pécheur aussi. Donc, il y avait un grand problème, parce que Dieu aime le monde. Dieu ne voulait pas perdre sa famille. Dieu voulait sauver sa famille. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une décision. C'était un homme, le premier Adam, qui a tout perdu. Ça va prendre un autre homme, le dernier Adam, qui va tout restaurer. Est-ce que tu es content de cela ce matin? N'est-ce pas merveilleux que Dieu lui-même, il ne voulait pas laisser la race humaine perdue? Personne ne devrait être triste ce matin, parce que Jésus est venu. Le dernier Adam est venu. Il est venu sur la planète Terre. Dieu lui-même s'est fait chair. Il est devenu un homme. Et là où Adam a trébuché, Adam a échoué face à ces trois tentations, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, à chaque fois, « Ah, regarde, regarde l'arbre, c'est beau, hein, agréable à voir, c'est bon à manger, ça va te rendre sage. » Jésus-Christ, le dernier Adam, face à face avec Satan, pendant 40 jours, il était capable, il était tenté en toutes choses, comme nous. Dans les trois mêmes domaines, il était tenté. « Oh oui, tu as faim? Change la pierre en pain. Oh oui, tu es vraiment le Fils de Dieu? Saute du pinacle. » Du temple, n'est-ce pas? Il était tenté dans les mêmes trois domaines que Adam, le premier Adam était tenté, sauf qu'à chaque fois, Jésus a dit, non, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Alors, le deuxième Adam, le dernier Adam, gloire à Dieu, a réussi là où le premier Adam a échoué. Et qu'est-ce qui est merveilleux? C'est que maintenant, Jésus a pris la place de chacun de nous sur la croix. Son sang a été versé. Il était notre substitut. Et on a un choix aujourd'hui. Soit on peut rester en Adam, le premier, et rester dans notre péché. Ou on peut être transporté du premier Adam et né de nouveau dans le deuxième Adam, le dernier Adam. On peut, en tant que nouvelle création, en tant que un homme, une femme née de nouveau, on peut être un Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous me suivez ce matin, mais le message n'est pas juste un bon message, c'est votre vie. Je parle de vous ce matin. Je ne parle pas de moi. Je parle de vous. Chacun de vous. Il y a, sans exception, vous trouviez dans une de ces deux catégories. Soit ce matin, vous êtes en Adam, ou vous êtes en Christ. Si vous êtes en Adam, tout le péché d'Adam est encore en vous et vous allez quand même mourir avec Adam et passer l'éternité séparée d'avec Dieu en Adam, dans cette nature pécheresse. Ou vous pouvez recevoir Jésus-Christ, être né de nouveau et être en Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous choisirez? C'est un peu faible ce matin. Combien de vous, vous êtes vraiment content que Dieu avait un plan de nous transporter de Adam à Christ? Gloire à Dieu, j'ai pas besoin de brûler à l'enfer. Hey, on a raison de se réjouir, hein? Regarde ceci. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, sans exception, de même aussi, tous revivront en Christ. Sans exception, si vous êtes en Christ, vous allez vivre. Mais si vous restez en Adam, vous êtes déjà mort et vous allez être même exposé au deuxième mort qui est l'étang de feu. C'est selon la Bible. C'est sérieux cette affaire. Mais que c'est glorieux de savoir que dans son amour, dans sa sagesse, dans son plan, il avait un moyen de nous transporter et de nous mettre en Jésus-Christ. Et quand j'étais transporté, parce que c'est ça que la Bible dit. Je suis doublement enfant de Dieu. Dieu a utilisé deux moyens pour faire de moi son enfant. Je suis son enfant, premièrement, par naissance. Parce que je suis né de nouveau, je suis né de Dieu. Dieu est mon Père. Il habite en moi. Sa nature est devenue ma nature. Mais deuxièmement, Dieu m'a adopté. Et quand je me suis fait adopter, j'ai changé de famille. Je porte plus le nom de famille d'Adam, je porte le nom de famille de Christ. Quelqu'un dans le naturel qui est adopté, il change de nom, n'est-ce pas? Autrefois, je faisais partie de cette famille-là, la famille Leblanc. Mais aujourd'hui, je fais partie d'une famille n'importe quoi. Mais vous comprenez le principe. Vous, si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes doublement, deux fois enfant de Dieu, parce que vous êtes né de Dieu, mais aussi vous êtes adopté dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, on va continuer dans vos notes. Regardons ceci. Premièrement, on voit dans vos notes, en Adam, tous meurent. Et en verset en Éphésiens 2, 1 qui dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. » Souligne le mot « autrefois ». Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous, si on dit nous tous aussi, nous étions dans le passé de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Remarque bien, j'ai mis ça en grand. Notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc on voit la chair, les pensées et la nature. Ça représente les trois parties de nous, esprit, âme et corps. Autrefois, sans exception, chaque personne qui est venue au monde sur la planète Terre, qui était en Adam, selon son corps, selon ses pensées, son âme, et selon sa nature, il était enfant de rébellion, fils de rébellion. Il y a des gens, même des bonnes personnes, des personnes religieuses, qui sont des fils de rébellion. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Leur nature n'a pas été changée. Une personne peut essayer de se conformer à la nature de Dieu par les actes, par la religion, par les règles, ça ne marcherait jamais. Parce que quelque chose doit se passer dans le cœur. On a besoin de naître de nouveau. Donc en Adam, tous meurent. Mais regardons les trois prochains versets. On a une bonne description dans Éphésiens 2, 1 à 3 de ceux qui sont en Adam. Mais là, on va voir une description de ceux qui sont en Christ. Tout le monde dit, je suis en Christ. Si vous êtes en Christ, qu'est-ce qu'on va lire ici? C'est la réalité pour vous. En Christ, tous reviennent à la vie. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez, en Adam, nous étions morts, les fils de rébellion. Mais en Jésus-Christ, je suis revenu à la vie, je suis même ressuscité avec Christ et je suis assis en Jésus-Christ. Actuellement, légalement, je suis et vous êtes, si vous êtes chrétien ce matin, vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais combien de chrétiens ils ne voient pas ça? Tout ce qu'ils voient, c'est que, oh, mais je suis un pauvre pécheur, oh, je vais m'accrocher et peut-être je vais être capable de survivre jusqu'à l'enlèvement. C'est pas ça. Vous êtes une nouvelle création. Il faut comprendre la réalité de la nouvelle création. Votre vie passée n'existe plus en Jésus-Christ. Amen? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? De la même façon que vous étiez en Adam, quand Adam a péché, vous étiez en Jésus-Christ quand il est mort, quand il était enterré, et quand il fut ressuscité, et tu es en Jésus-Christ, maintenant il règne à la droite du Père. De la même façon que j'ai rien fait, moi j'ai rien fait, quand je suis venu au monde, pour faire en sorte que je suis devenu pécheur. C'est qu'est-ce que mon grand-papa Adam a fait qui m'a rendu pécheur, n'est-ce pas? Il n'y a rien que je peux faire, ou que j'ai pu faire, ou que je peux faire dans le futur, qui peut me rendre juste non plus. Je ne peux rien faire. De la même façon que j'ai hérité la nature d'Adam, maintenant j'ai hérité la nature de Jésus-Christ. Donc je ne me vante pas en disant, mais moi, j'ai la nature de Dieu à moi. Je dis, ah, j'ai été autrefois pécheur en Adam, mais maintenant je suis en Christ. Et grâce à lui, par son amour, dans son plan merveilleux, il a fait de moi une nouvelle espèce de créature qui n'a jamais existé auparavant. Je suis né de nouveau. Amen. Il y a quelques-uns de vous, je le vois dans vos yeux. Quelques-uns, vous commencez à capter une petite révélation. Il y a d'autres, je dirais 50%. Vous comprenez pas, vous n'avez pas encore saisi. Parce que si vous aurez saisi qu'est-ce que je viens de dire, vous ne serez pas aussi sombre. Je viens de dire qu'autrefois vous étiez en Adam, vous avez hérité la nature d'Adam. Mais parce que vous avez cru en Jésus et donné votre vie à Jésus, vous avez maintenant hérité la nature de Dieu tout-puissant. Je ne suis plus un pécheur. Je ne suis plus un pécheur. Et si je vis dans la lumière de cette réalité et ma tête pense comme il faut, je ne pense plus comme un pécheur, mais je pense comme enfant de Dieu. Je vais agir comme un enfant de Dieu. Mais aussi longtemps que je suis convaincu dans ma tête que je suis encore un Adam et que j'ai encore la nature de grand-papa Adam, je vais agir comme grand-papa Adam. Amen. Il faut que ça change. Alléluia. Pour ceux qui me concernent, regardons nos notes ici. Galates chapitre 6. Oh, il y a tellement de choses que je veux dire. Galates chapitre 6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts... Oh, pardon, ça, c'est pas le verset que je voulais lire. Je l'ai déjà lu. Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi de la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et aujourd'hui, j'ai déjà lu une partie de ce verset, Romains chapitre 6. Et si on a le temps, on va lire chapitre 6 et on va juste faire 4 ou 5 commentaires là-dessus. Des choses que vous avez besoin de saisir si vous voulez vivre comme une nouvelle création, avoir une nouvelle identité. J'ai une nouvelle famille, une nouvelle identité. J'étais pécheur, mais je ne suis plus pécheur. Je ne me glorifie pas, je glorifie Jésus. C'est lui qui fait l'œuvre, n'est-ce pas? Mais en verset 3 de Romains 6, dans vos notes, auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait acte de mort au péché? Ou bien ne savez-vous pas que nous, qui avons été immergés en Jésus-Christ, nous avons été plongés en sa mort? Par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Tous ceux que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Avez-vous compris cela? Tous ceux que nous étions autrefois, je vais le lire encore, tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Et pourquoi cela? Vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Ça, c'est beau, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à amener notre existence sur un plan nouveau. C'est-à-dire que si quelqu'un qui a reçu Jésus marche comme un enfant d'Adam, soit la personne n'a pas compris ou la personne est en rébellion. Qu'est-ce que Dieu nous demande de marcher en nouveauté de vie? Et moi, je crois que la plupart des cas, c'est des gens qui sont dans l'ignorance. Parce qu'ils veulent, la plupart des chrétiens que je connais, ils veulent vivre comme Dieu veut qu'ils vivent. Et vous? La plupart des chrétiens sont sincères, ils ne sont pas révoltés, ils ne sont pas rebelles. Il y a beaucoup, par exemple, qui sont convaincus qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire autrement. Il y a beaucoup qui sont convaincus qu'ils sont impuissants face au péché. Il y a beaucoup qui pensent que je suis fait de même et je serai toujours comme ça. Mais ce n'est pas vrai, parce que toutes choses sont passées et des nouvelles choses sont venues, n'est-ce pas? Je suis une nouvelle création. Alléluia. Regarde bien, numéro 1 dans vos notes. Sachez que vous êtes un seul et même être avec Christ. Un seul et même être avec Christ. On a trop de chrétiens qui ont cette image de Jésus qui est là et son Église qui est là. Ou... Ils sont séparés. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que quand nous sommes devenus chrétiens, nous avons été fusionnés et nous sommes devenus une seule plante avec lui. Nous sommes inséparables. Christ est à nous et nous sommes en Christ. Christ fait partie de nous et nous faisons partie de lui. C'est lui qui est la tête, nous sommes le corps. Est-ce que ta main fait partie de toi? Content d'avoir un doigt? Ça fait partie. La tête est contente d'avoir le doigt. Le doigt est content d'avoir une tête pour le diriger aussi, n'est-ce pas? Donc, on est une seule plante, un seul et unique être avec Christ. Vous avez besoin, nous avons besoin, j'ai besoin de davantage de lumière. J'ai besoin de comprendre plus la réalité que quand j'ai accepté Jésus, il m'a fusionné ensemble avec Jésus-Christ. Nous sommes une seule plante, comme la Bible dit ici dans la Bible du Seigneur, quand nous sommes devenus un seul et même être avec lui. Nous lui avons été incorporés comme le greffon à son porte-greffe. Si donc nous avons été implantés en sa mort pour mourir avec lui, nous le serons aussi en sa résurrection pour revivre comme lui. Je suis identifié avec Christ et en Christ. En fait, si je suis, ma nouvelle identité fait en sorte que je suis identique à Jésus. Ma nouvelle identité en Christ fait en sorte que je suis identique à Jésus. Pas peut-être dans mon corps aujourd'hui, peut-être pas encore dans mes pensées, mais dans mon cœur, dans mon esprit, je suis identique à Jésus-Christ. Parce qu'il est en moi, je suis en lui, il habite là. Si on pourrait avoir les lunettes spirituelles et voir tous ceux et celles qui sont nés de nouveau, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait Jésus dans votre cœur. Mais combien de chrétiens ont Jésus dans le cœur, mais ils ont Adam dans la tête? Je vais le dire encore, il y a trop de chrétiens qui ont Jésus dans le cœur et Adam dans la tête. Mais si vous avez Jésus dans le cœur et Jésus dans la tête, votre corps va agir comme Jésus. Vous êtes là? Numéro 2, qu'est-ce qu'on peut faire? Développer l'attitude d'un homme mort par rapport au péché. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. J'aime ça, neutralisé. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Un mort est quitte envers le péché. Il est dégagé de sa responsabilité. Le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Donc, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons aussi que nous partagerons la vie de Christ. En union avec lui, nous accéderons à la vie nouvelle. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne mourra plus jamais. La mort a perdu tout droit et tout pouvoir sur lui. Il est mort pour le péché une fois pour lui, pour tout. Mais à présent, étant ressuscité, il vit pour Dieu, dans une communion parfaite avec lui. À vous de prendre la même attitude. Tout le monde dit la même attitude. Vous êtes morts pour le péché. Considérez donc vous comme des morts à l'égard de ses appels. Votre relation avec lui est rompue. Regardez-vous d'autre part comme des vivants pour Dieu, dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous êtes en Jésus-Christ, notre Seigneur. Agissez comme un mort par rapport au péché. Hein? Prochaine fois que vous êtes tenté, faites ceci. Tout le monde regarde. Prochaine fois, faites ceci. Pourquoi? Le péché vous appelle. Imaginez, hein, un homme mort, une femme morte. Hey, est-ce que ça te tente d'aller faire telle chose? Qu'est-ce que le cadavre va répondre? Veux-tu aller fumer un joint? Aimerais-tu tricher sur ton épouse? Considérez, c'est ça, c'est exactement ce que la Bible est en train de dire ici. Hein? Moi, je suis mort au péché. J'écoute plus ses appels. Amen. Il a beau à l'appeler, il ne répond plus. Donc, puis, il y a un petit problème informatique ici, supposé d'être numéro 3 dans vos notes, c'est marqué numéro 1 peut-être, mais numéro 3, n'écoutez plus les ordres de votre ancien maître. N'écoutez plus les ordres de votre ancien maître. Savez-vous que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin, et la plupart des gens ne savent même pas. Ils sont ignorants, ils ne savent pas qu'ils sont sous la puissance du malin. Donc, Satan est le dieu de ce siècle. Et Satan, il est dur comme maître. Vous êtes d'accord avec ça? Tu as juste à regarder les gens qui ont souffert dans le péché et voir jusqu'à quel point Satan est un maître cruel. Il déteste ses esclaves. Mais là, on voit qu'on n'est plus obligé d'écouter le diable. Il n'est plus notre maître. On a changé de maître. Amen? Et autrefois, on avait la nature de Satan. Les gens pourraient regarder à l'intérieur de notre cœur et ils voyaient la nature de Satan. Maintenant, ils voient la nature de Dieu. Ici, j'ai quelque chose. Deux choses qui sont presque plus bonnes à rien parce que les cassettes audio sont de moins en moins utilisées. Mais on connaît le principe d'une cassette, n'est-ce pas? Moi, je sais, quand j'ai commencé dans le ministère d'aide à mon église, mon ministère, c'était de faire les copies des cassettes. Et quand on avait des grandes conférences, des personnes qui venaient, on avait 3 machines et je pourrais faire jusqu'à 7 copies à la fois. Et c'était vraiment quelque chose. Mais vous savez quelque chose d'intéressant? On avait la cassette qui contenait le message. Et on appelait ça, comment est-ce qu'on appelle ça en français? Un master, n'est-ce pas? Qui dit un maître. Et en anglais, on avait toujours, d'habitude, on avait les cassettes blanches qu'on mettait dans les appareils, et on appelait ça, nous, en anglais, « the slaves », les esclaves. Parce que, qu'est-ce qu'on fait? On met le master dans l'appareil, et puis on peut mettre 7 autres cassettes vierges, qu'est-ce qu'on appelle les esclaves dans les autres, et qu'est-ce qui est à l'intérieur du master va être transporté dans l'esclave. Autrefois, nous étions les esclaves de Satan. Amen. Mais bonne nouvelle, quand vous avez accepté Jésus-Christ, vous avez enlevé Satan de son poste et tu as mis un autre master dans ta vie, n'est-ce pas? Un autre maître, tu as un nouveau maître maintenant. Et c'est lui, alléluia, on est devenus les esclaves de Dieu. Mais c'est bon d'être un esclave de Dieu parce que c'est pas juste notre maître, il est aussi notre père. On n'est pas juste ses serviteurs, on est ses enfants, ses fils aussi. Donc, tout le contenu qui était dans la cassette, dans ton cœur, est effacé maintenant et remplacé pour un nouveau contenu. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur de Satan était à l'intérieur de nous, notre nature pécheresse. Mais maintenant, on a changé de master. Et tout ce qui est à l'intérieur de Jésus se trouve à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qui est sur l'esclave est identique à qu'est-ce qui est sur le master. Comment on dit, tout le monde dit identique. On parle d'une identité. Qui êtes-vous? Je suis esclave de Jésus-Christ. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. J'ai la nature de Père. Tout ce qui était en Jésus est maintenant en moi. N'est-ce pas merveilleux? Donc Dieu a fait ça automatiquement. Bang! Dès que tu as confessé Jésus, boum, il a remplacé, il a changé de master et vous êtes devenu une nouvelle création. Mais maintenant, tu as une autre copiette dans ton système. Tu as une copiette dans ton cerveau qui est enregistrée toujours avec qu'est-ce qui était dans la cassette de ton ancien master, Satan, ou le système de ce monde. Et maintenant, parce que vous avez un nouveau cœur, une nouvelle nature, vous avez besoin, au fur et à mesure, à transférer les données qui sont dans ton cœur et les transférer et faire un nouveau enregistrement dans ta tête. D'avoir Jésus-Christ dans le cœur et Jésus-Christ dans la tête, et non pas Jésus dans le cœur et Adam dans la tête. Amen. N'écoutez plus les ordres de votre ancien maître. Ne permettez donc plus au péché d'exercer sa domination sur votre corps mortel, ni de servir de vos membres pour vous asservir à ses convoitises. Son règne sur vous est fini. Tout le monde dit, son règne sur moi est fini. Dis-le encore. Son règne sur moi est fini. Refusez donc de lui obéir et de céder aux désirs de vos passions. Vous n'avez plus le droit de vous mettre vos membres à la disposition du péché, ni de placer vos facultés à son service. Il s'en servirait comme arme contre Dieu. Numéro 4, là. Offrez-vous entièrement au service de Dieu. On parle de comment vivre selon notre nouvelle identité. Présentez-vous plutôt vous-même à Dieu et placez-vous une fois pour toutes à sa disposition. Offrez-vous entièrement, tout le monde dit entièrement, à lui. N'avez-vous pas été arraché à une mort certaine et ressuscité à une vie nouvelle? Consacrez donc vos facultés au service de Dieu et faites de vos membres des instruments de sa volonté. Remettez-les entre les mains de Dieu afin qu'ils s'en servent comme armes pour accomplir ses desseins. Car votre maître n'est plus le péché. Tout le monde dit, mon maître n'est plus le péché. Il ne conserve aucun droit sur vous et ne pourra par conséquent ni vous dominer, ni vous vaincre. Alléluia. Vous ne relevez plus de la loi, votre vie est placée sous le signe de la grâce divine. Cela signifierait-il que nous pouvons maintenant faire le mal? Allons-nous nous mettre à pécher sous prétexte que notre salut ne dépend pas de l'accomplissement de la loi, mais la grâce qui couvre tout? Allons donc. Vous savez très bien qu'en vous mettant voici quelque chose d'important. En vous mettant... Oups, j'ai perdu ma place. Qu'est-ce que j'ai... c'est ça, merci. Vous savez très bien, en vous mettant... En vous mettant corps et âme au service de quelqu'un, vous êtes tenu de lui obéir et d'accomplir toutes ses volontés. Vous devenez ainsi effectivement les esclaves du maître auquel vous vous êtes voués et que vous avez choisi de servir. Il en est de même de vos relations avec le péché ou avec Dieu. Ou bien vous servez le péché et vous allez à la mort, ou bien vous obéissez à Dieu et vous trouvez une nouvelle vie juste. Dieu soit loué. Si jadis vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant, tout le monde dit maintenant, obéi de tout cœur à l'enseignement que vous avez reçu. Vous êtes volontairement soumis au modèle présenté par la doctrine qui vous a été transmise. Qu'on voit ainsi qu'on peut s'offrir entièrement au service de Dieu. Seigneur, autrefois je servais mon autre maître, mais j'ai changé de maître. Et comme on voit ici, numéro 5, servez votre nouveau maître avec tout votre dévouement. Dans le verset qui suit, il dit, à présent, affranchi de votre ancien maître. Est-ce que vous êtes content d'être affranchi de votre ancien maître? À présent, affranchi de votre ancien maître, le péché, vous êtes entré au service de ce qui est juste. J'emploie cette image de l'esclavage. Pourquoi? Parce que vous avez de la peine à comprendre votre nouvelle position. Je vous propose aujourd'hui qu'un bon pourcentage des enfants de Dieu ont de la misère, de la difficulté à comprendre leur nouvelle position. Ils ne comprennent pas que Satan n'est plus leur maître et qu'ils sont devenus la nouvelle création dans Jésus-Christ. Et à cause de cela, le diable est capable de mentir et les convaincre qu'ils sont prisonniers au péché. Mais vous êtes morts au péché et vous n'êtes plus obligé d'obéir votre ancien maître. Amen? Mais elle n'est pas rigoureusement exacte. Autrefois, en fidèle valet du péché, intéressant, n'est-ce pas? Vous aviez placé toutes vos facultés et vos membres au service de l'immoralité et du désordre. Pour arriver à quoi? Au mépris de toute règle, à l'anarchie morale complète et à la révolte contre Dieu. Eh bien maintenant, servez Dieu avec le même dévouement. Mettez tout votre être à la disposition de ceux qui est juste. Qu'est-ce que je vois dans ce verset? Autant que vous avez vécu pour le diable, autant que vous étiez enflammé pour faire des choses pas correctes, autant que vous aviez le désir et la passion de faire des choses qui blessaient les gens, autant plus on va vivre pour notre nouveau maître. Je refuse d'avoir vécu avec plus d'énergie, avec plus de ferveur pour l'ancien maître que je vis pour le nouveau maître aujourd'hui. Et c'est pourquoi, c'est des fois, on voit, Jésus dit, celui qui a été pardonné beaucoup, il aime beaucoup, n'est-ce pas? On voit des fois des personnes qui avaient des vies rock'n'roll et qui ont fait toutes sortes de choses. On dit des gros péchés, des choses grandes et énormes. Aux yeux de Dieu, tout péché est péché, vous êtes d'accord? Mais ceux qui avaient une passion pour le diable, quand ils viennent à Christ, souvent on voit, ils deviennent les fous pour Jésus. Amen? Moi, j'ai des amis comme ça. Que eux autres, c'était les moutons noirs de leur famille. Ils étaient des personnes avec des réputations dans le royaume des ténèbres. Mais une fois qu'ils ont changé de maître, ils sont devenus esclaves de Jésus. Et ceux qui étaient en Jésus et maintenant en eux, ils vivent avec la même faveur et encore plus pour Jésus. Hein? Ils vont développer une réputation pour Jésus. Amen? C'est là le chemin d'une vie sainte. Vous réjouirez Dieu en le suivant. Est-ce que vous voulez réjouir Dieu? Suivez ce chemin-là. Lorsque vous étiez encore esclave du péché, vous préoccupiez-vous de la volonté de Dieu? Vous considériez à son égard comme des hommes libres, n'était pas vrai? Vous estimiez qu'elle n'avait pas d'ordre à vous donner, c'est vrai. En tant que pécheur, Dieu, il n'a rien à dire dans ma vie. Qu'avez-vous gagné? Quel était le fruit d'une telle attitude? Regarde, rien que des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui, car ils vous entraînent à la ruine. À la longue, ces choses ne mènent qu'à une seule issue, à la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez changé de maître, ces choses n'existent même plus. Et si le diable essaie de vous donner un souvenir, il essaie de vous faire rougir à cause de ton passé, tu dis... Ça n'existe plus, j'ai changé de maître, la cassette a été effacée, c'est tout nouveau à l'intérieur de moi. comme l'apôtre Paul, qui était quelqu'un de assez méchant avec les chrétiens. Il ravageait l'église. Il cherchait les hommes et les femmes, les mettait en prison. Et quand ils ont lapidé Étienne, le premier martyr de l'église, ils ont, tout le monde a mis leur manteau au pied de Saul. Mais c'est Saul qui a dit en 2 Corinthiens chapitre 7, est-ce que je peux utiliser ta Bible, Emilien? En 2 Corinthiens chapitre 7, parce que je ne veux pas le mal citer, Paul a dit quelque chose que nous avons besoin de saisir, qui est tellement important. Paul a dit, donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. Comment est-ce que Paul, celui qui a lapidé Étienne, celui qui a ravagé l'Église, celui qui a tué les chrétiens, comment est-ce qu'il peut oser dire « j'ai fait tort à personne » parce qu'il a réalisé que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est Saul qui a tué les gens. C'est l'ancien homme. Quand j'étais esclave de Satan, c'est là où j'ai fait ces choses. Mais j'ai changé de maître. J'ai changé de nature. Je ne suis plus la même personne. Je suis crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia! Alléluia! Wouh! Correct, mais je suis un peu content, là. On va finir ici, verset 22. Mais maintenant, tournez maintenant. Pas demain, pas une fois rendu au ciel, pas dans 10 ans, mais maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? On va le dire ensemble. Tout est changé. Mais maintenant, tout est changé. Affranchi de l'esclavage du péché, vous n'avez plus aucune obligation envers lui. C'est Dieu qui vous a engagé comme serviteur. Votre récompense actuelle est de lui appartenir toujours davantage, en progressant dans une conduite toujours plus conforme à sa volonté. Les fruits que vous portez, ce sont des actions qui le réjouissent. Et au terme de votre route, se trouve la vie pour toujours. Car si le solde payé par le péché à ses esclaves est la mort, Dieu nous offre, comme cadeau gratuit, la vie éternelle en communion avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Jean-Charles, si tu peux venir. Oh, je suis content d'être une nouvelle création. Je suis content que les choses, les anciennes choses sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis content d'avoir changé de maître. Amen. Je suis content d'être un esclave de Dieu et un enfant de Dieu. Je suis content d'avoir Jésus dans mon cœur et Jésus dans ma tête. Avec tous les yeux fermés ce matin. Excusez mon enthousiasme. Non, pas d'excuses à faire. Oh, je suis content. Je suis content que Dieu m'a pris tel que j'étais. Je suis content que le maître n'a pas dit, change ton cœur et je vais t'accepter. Je suis content que mon maître n'a pas dit, arrête de faire ça et ça et ça et puis je vais t'accepter. Je suis content que mon sauveur a dit, viens à moi tel que tu es. Viens à moi tel que tu es. C'est moi qui vais enlever le cœur de pierre. C'est moi qui vais mettre en toi un cœur de chair. C'est moi qui vais entrer dans ton être et on va devenir une seule plante ensemble. Les deux deviendront une seule chair. Comme un homme et une femme qui se marient deviennent une seule chair, dans l'esprit, nous et Jésus, qui est l'époux, nous sommes l'épouse, nous sommes devenus une seule chair. Une seule plante avec lui. Un seul et même être avec Jésus-Christ. Une nouvelle création. Si vous êtes ici ce matin, et vous savez dans votre cœur que vous n'avez jamais changé de maître, peut-être vous croyez que Jésus est le roi de l'univers, mais vous n'avez jamais, par la foi, pris une décision de remplacer le maître actuel de votre vie, que selon la parole de Dieu, tous sont sous l'empire du diable, même si on est des personnes gentilles et sympathiques et religieuses même. La Bible dit que tous sont sous la puissance du malin. Si vous n'avez jamais pris une décision d'accepter Jésus comme ton maître, Si ce matin, vous savez que vous êtes encore esclave de Satan, mais vous voulez être esclave de Jésus, enfant d'amour, je vous invite à donner votre vie à lui. La Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le dernier verset qu'on a lu ce matin, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, ce matin, c'est votre matin. Quittez pas ces lieux sans changer de maître. Sans donner la chance à Jésus de transformer votre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, « Pasteur, je sais que j'ai besoin de changer de maître ce matin. J'ai besoin de donner ma vie à Jésus. » Si c'est le cas, je vous lève la main. On va prier pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un que ce matin, je vous invite, combien de vous voulez donner votre vie à Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un, une personne, deux, trois ou cinq, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que si vous trouverez la mort aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr et certain d'avoir la vie éternelle. Bonne nouvelle. C'est un don gratuit de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On a des personnes qui sont formées, qui sont prêtes à prier avec vous, mais juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Peut-être tout le monde ici l'a déjà fait. Et j'espère que c'est le cas. Sinon, je vous invite et je vous supplie même, ne laisse pas passer cette journée sans le faire. Mais dans mon esprit, je crois qu'il y a un grand pourcentage, quand même, ici ce matin, que si vous êtes honnête avec vous-même, Christ est dans votre cœur, mais Adam est dans votre tête. Vous savez que vous êtes né de nouveau, que vous êtes sauvé. Vous savez que vous avez une place réservée pour vous au ciel. Mais vous ne comprenez pas que vous êtes en Christ aujourd'hui et que maintenant tout a changé. Et aussi longtemps que Adam reste dans la tête, tu vas agir comme Adam. C'est pourquoi la Bible dit, présentez vos corps comme des sacrifices vivants, ce qui est notre culte raisonnable. Il a dit, soyez, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Comment? Par le renouvellement de votre intelligence. Votre âme, votre intelligence a besoin d'être réenregistrée. Et ce qui se trouve déjà dans votre cœur a besoin d'être transféré à votre tête, à votre volonté, à vos émotions, afin que vous puissiez penser comme Christ. Comme la Bible dit, nous avons la pensée de Christ. Parce que quand vous commencez à penser comme Jésus est, Christ est dans ta tête et ton cœur va suivre. Père, je prie pour chaque homme, chaque femme, mais on sait que ça, c'est un processus. Et je crois que ce matin, il y a des gens qui ont eu une révélation de cela. Mais je prie, Seigneur, qu'ils vont prendre le temps, à tous les jours, de prendre leur Bible et de lire, et de voir qui ils sont en Christ. De méditer, Seigneur, les versets qui parlent de la nouvelle naissance, qui parlent de la nouvelle création, et d'enregistrer ces choses afin que les pensées d'Adam soient remplacées par les pensées de Christ. C'est ça qui va amener la transformation dont nous avons besoin. C'est ça qui va nous rendre capables d'être morts au péché, de ne plus répondre à ses appels. C'est ça qui va transformer notre conduite ici sur la terre. Merci, Père. Dernier rappel, si vous êtes ici et vous savez que vous êtes né de nouveau, vous savez que vous êtes une nouvelle création, mais vous n'avez jamais reçu qu'est-ce que la Bible appelle d'être rempli du Saint-Esprit, comme c'est passé en Actes chapitre 2, verset 4. Ils furent tous remplis de l'Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est une chose merveilleuse parce que la Bible dit que si celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Son esprit est en prière, mais son intelligence demeure stérile. C'est une façon pour ton cœur, où Jésus habite, de se fortifier pour que ton cœur puisse avoir plus d'influence sur ton âme et sur ton corps. C'est une chose importante. C'est un don qui nous appartient. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dirait, j'aimerais avoir quelqu'un prier pour moi pour recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence initiale de prière? Alors, juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a une personne ici. Quelqu'un d'autre ce matin? C'est une bonne chose. C'est un cadeau aussi. Donc je vais juste demander à celui qui a levé la main de venir en avant. On a des hommes qui sont et des femmes qui sont formés pour aider. Je suis ici, on va prier pour toi dans 10 minutes. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait se rejoindre à lui? Merci Seigneur. Il veut être rempli du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un d'autre, je viens ici en avant. Ne sois pas gêné. Ne sois pas gêné. C'est des bonnes choses que Dieu nous offre. On va prier pour eux. Et puis, on a une salle de prière juste ici. C'est une place tranquille. Et on a des personnes, des préposés à l'hôtel qui sont prêts à passer juste un peu de temps. Ça ne prendrait pas longtemps. Répondre à tes questions, prier avec toi. Mais on va prier collectivement. On peut se lever debout. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se rejoindre à eux? Dieu. Alléluia. On va se lever debout, on va prier cette prière pour nous tous, et puis on va prier pour eux. Premièrement, on va prier que le Seigneur nous donne une révélation du message qu'on vient d'entendre, afin de commencer à vivre comme Christ, en Christ. Donc, priez cette prière avec moi. Merci Père, que nous sommes des nouvelles créations. Nous ne sommes plus en Adam, mais nous sommes en Jésus-Christ. Ouvre les yeux de notre cœur. Illumine les yeux de notre cœur. Pour qu'on puisse comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit dans le cœur et dans la tête de chaque membre de cette Église. Au nom de Jésus. Amen. Et Père, je prie pour ces trois personnes qui veulent être baptisées du Saint-Esprit, remplies de l'Esprit Saint. Je prie, Père, cela, parce qu'ils vont recevoir les choses dont ils ont besoin, qu'ils désirent. Donc, Seigneur, merci. On se met en accord que chacun va recevoir et va partir d'ici rempli de toi comme jamais auparavant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, si vous voulez juste aller avec ces préposés, juste pour quelques minutes, dans la salle de prière.